bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir avec Leïla Kadhafi-Bellil.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tom Mila.
Bonjour.
Guillermo Guiz.
Oui, bonjour, enchanté.
Tout à l'heure, Tanguy Passero sera avec nous et nos invités Tony Marshall et Benoît Jacob.
Bravo.
Nous allons, alors avant de commencer, avant même de saluer nos invités, sachez que c'est oui, le plastique, non merci.
Hein,
c'est
voilà, voilà. Journée spéciale.
Non merci.
Non merci au plastique. Et tout à l'heure, Tanguy Passero nous en parlera. Et c'est pour ça que nous avons la joie de découvrir des carafes, des gobelets en carton. Et
double plastique, quand même.
Non, pas du tout.
Si, si, c'est moi qui l'ai fait.
Tu dis n'importe quoi.
Retire ta paille, Nagui.
C'est n'importe quoi. Merci, Benoît, Jaco, d'être avec nous. Merci, Tony Marshall, de venir à ce micro. Nous allons parler de ce festival international du film policier de Beaune qui démarrera le 3 avril prochain jusqu'au 7 avril avec un casting impressionnant dans votre jury, monsieur le président. Vous avez vu? Vous avez du beau monde, hein?
Oui, je crois savoir. Oui, en tout cas, il y a Tony qui est là. Donc, si Tony est là, tout va bien.
Tout va bien. Vous avez un joli casting. Mélanie Bernier, Agathe Bonitzer, Lolita Chama, François Civil, Alice Isaac, Louis Daud de Langsin, Nicolas Saada et donc Tony Marshall. C'est un joli casting.
Isaac. Remarquable, parfait.
Isaac, pardon.
Izaz.
J'ai dit Isaac, pardon. Izaz. Très, très beau. Pourquoi tout le monde a envie d'aller au festival de Beaune? On a l'impression que c'est un must.
Parce qu'il y a à la fois, je crois, d'après ce que j'ai compris, il y a à la fois du pinard et, et des films. Voilà, donc voir des films avec un verre de pinard, c'est pas mal.
En bonne compagnie,
c'est un peu la vie, ça. Voilà. C'est
bon. Moi, j'y vais pour la compagnie, pour les films, car je suis allergique à l'alcool. Donc, c'est vraiment, je suis pure.
Ah d'accord, mais hein, allergique, c'est-à-dire
je souffle de l'éther par le nez, j'ai jamais compris pourquoi, je deviens absolument toute rouge, ça pique, etc., donc c'est un désastre.
D'accord, ok. Il
faut filmer tout ça.
Non, mais ça t'empêchera pas d'être ivre, grisé.
Mais alors, je vais être grisé.
Voilà. Question plus aux réalisateurs et réalisatrices que vous êtes, qu'aux membres du jury ou au président, comment définir un bon polar, Tony Marshall?
Les personnages qui sont dans des rapports conflictuels et qui font face à des transgresseurs et qui sont eux-mêmes dans la transgression. C'est-à-dire que c'est des oppositions.
Ah, il faut qu'ils soient eux-mêmes dans la transgression.
Moi, je pense qu'un bon polar, c'est quelqu'un qui transgresse
qui est border,
face à un transgresseur.
Qui est
voilà.
Limite, ouais,
c'est ça qui, moi, me plaît.
Votre définition, Benoît Jacob?
Des situations qu'en principe, on ne connaît pas et dans lesquelles on se trouve le temps du film impliqué. En criminel ou en justicier.
Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une notion d'énigme, de surprise, de twist, comme on dit, comme ça, de rebondissement?
Non, mais c'est par définition quasiment le genre énigmatique. Donc, il y a des secrets, un mystère, des choses à éclaircir, voilà.
Vous n'avez pas l'air d'accord, Tony Marshall.
C'est-à-dire, Agatha Christie, c'est des énigmes, mais je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, le polar. Le polar, c'est un territoire de zones d'ombre qui sont chez, évidemment, ceux qui sont les meurtriers, les étrangleurs, les tout ce que vous voulez.
On s'est tous dit
à un moment donné, je vais la tuer, je vais le tuer, je vais le jeter. L'envie de couper quelqu'un en morceaux, si ça ne vous est pas arrivé. Hein, franchement,
Tony, calmez-vous.
Tout ce qu'on entend encore aujourd'hui.
Parce qu'a priori, vous ne pourrez pas plaider l'alcoolémie, donc
elle ne boit pas, mais
elle tue.
Mais c'est comment dans les films on approche très très près des zones d'ombre qui doivent nous travailler quand même un peu et qui nous sont exposées à travers les personnages qui sont soit là pour faire respecter une sorte d'ordre qui fait que la société part pas en vrille, soit l'inverse, c'est-à-dire ceux qui passent
La limite, ouais, c'est ça. On va parler donc de ce festival de Beaune, tremplin pour la carrière de film hors compétition, la compétition 109, le jury 109, le jury spécial police, puisqu'il y a des policiers, on en avait parlé je crois l'année dernière, des inspectrices, des inspecteurs, des enquêteurs, des commissaires qui se réunissent pour juger de leur point de vue de professionnel de la police, pour juger des films policiers. On reviendra sur cette compétition du 3 au 7 avril. Mais d'abord, des questions. concernant nos invités. À 10 ans, Tony Marshall, et vous ne dites rien, Tony, à 10 ans, Tony Marshall accompagne sa douce maman, Micheline Prell, aux États-Unis pour tourner, un film avec Edward G. Robinson et une autre vedette américaine. Laquelle? Et donc, elle a croisé cette vedette américaine, évidemment.
Moi, je peux rien
dire. Non, non, vous dites rien.
Homme ou femme?
Homme, et avec un regard, et puis au niveau...
Humphrey Bogart?
Non. Et parmi les plus grands?
Non,
parmi les plus grands.
Steve McQueen.
En taille ou en...
Je sais pas, c'était quelle année, c'est
je pense en jeu et en beauté.
Ouais, autour de quelle année, plus ou moins?
Autour de, on va dire, dans les années 70
60... Non, 63, 64.
James Dean était encore là?
Non.
Puis il a fait 3 films, lui.
Ah oui, mais...
Et aucun avec Michel Brando.
Avec un regard très bleu, très...
Ouais.
Alors, qui a des yeux incroyables? Douglas. Celui qui joue dans Le Bon, la Brute et le Truand.
Non.
Qui a des très beaux... Attends, Steve
Lance
McQueen, qui a des très beaux yeux bleus.
Paul Newman.
Oui.
Exactement.
Ah, bravo.
Heureusement que t'as pas de casque, parce qu'au moins là, je suis sûr que t'as pas triché.
C'est un des seuls films avec Paul Newman et Gérard Oury, quand même. C'est une une rareté. Ouais. Hein. Quelquefois, on dit Coluche et Delphine Seyrig et tout le monde cherche, mais... Mais voilà, donc c'est Paul Newman et Gérard Oury.
Est-ce que même à 10 ans, on se rend compte de qui est Paul Newman, on est impressionné par son regard?
Et Edward G. Robinson, je peux vous dire. Je crois que la personne qui me... Voilà, parce que je l'ai... Une ou deux fois, il est venu me garder à l'hôtel, parce que j'étais à l'hôtel. Et voilà, j'ai un souvenir d'Edward G. Robinson. Pour moi, c'est un trésor. Voilà. Et Paul Newman... Il était très... Moi, je me souviens que c'est très syndiqué là-bas. Et un jour, ma mère qui est française, donc normale,
on est masquage de Coluche.
Voit une brosse à cheveux par terre et donc la ramasse pour aller la poser quelque part. Elle n'avait absolument pas le droit de faire ça, car c'est le boulot de la maquilleuse et de la coiffeuse. Et donc, c'est un truc qui est sanctionné. On n'a pas sanctionné ma mère parce que c'était une actrice connue. Mais je veux dire, tout est réparti par profession.
On n'a pas le droit de ramasser une brosse à cheveux
non,
par terre.
Non, c'est chacun son métier. Donc c'est moi un truc par terre. On dit... Maquilleuse, il y a une brosse par terre, elle arrive, elle ramasse la brosse. Ça m'avait beaucoup frappé.
Ah oui, ça attrapait le boulot.
C'est choquant. Mais arrête, c'est choquant.
Pas besoin d'être syndiqué,
c'est incroyable.
Et Paul Newman était très. J'ai le souvenir qu'il était comme ça tout le temps, les mains dans la tête dans les mains, pas les mains dans la tête déjà, la tête dans les mains. Et je me souviens pas que voilà, j'avais l'impression que ma mère était plus en train de discuter souvent avec Edward G. Robinson et Gérard Oury qu'avec Paul Newman.
Très bien. Le métier du papa de Benoît Jacquot, il est industriel, ne lui plaisait pas. Donc, pour l'école, pour ses amis...
Ne plaisait pas à Benoît Jacquot.
Ne vous plaisait pas.
Ouais.
Vous n'aimiez pas dire que votre papa était industriel. Donc, il avait inventé un métier à son papa.
Cascadeur.
Pilote d'avion.
Non.
Douanier.
un métier qui existe vraiment?
Oui, un métier qui existe vraiment.
Charpentier.
Il fait quoi ton papa?
Pilote de l'air.
On est dans le...
Aviateur militaire.
Non, mais c'est une piste, en tout cas.
Steward, non.
Astronaute.
Général.
Mécanicien sur avion.
Vous ne jouez pas, Tony, parce qu'eux, ils ont des primes de
comportement.
Mécanicien sur avion. C'est lié à l'air.
C'est lié au voyage.
Au voyage.
Conducteur
de voyage.
Non.
Guide touristique.
Tour opérateur.
Non.
Géo.
Il l'a dit, je crois.
Oui, moi, j'ai
marin. Ouais. Ah, vous acceptez marin, vous?
Bon, enfin, ouais.
Okay.
Je vais raconter parce que c'est ce que je voulais faire quand j'étais tout petit.
Approchez-vous du micro, ça sera plus confortable.
Il était capitaine au long cours, un truc comme ça.
Exactement.
Ouais. Sans doute.
Oui.
Capitaine Longcourt, mais en quoi ça vous plaisait pas de dire mon papa est industriel ou il fabrique des trucs
Non, c'est pas ça. C'est que enfant, avant de vouloir être cinéaste, que j'ai voulu très tôt, je voulais être marin, donc.
Donc vous avez fait un transfert de vos propres rêves.
Donc j'avais inventé que mon père l'était pour.
Est-ce que vous lui avez dit à l'école, je dis que tu es capitaine.
Non, mais ça lui a été dit parce que j'allais très loin dans ce genre de mensonge. C'est-à-dire, je déclarait quand on me demandait les profs ou quoi ce que faisait mon père, qu'il n'était pas là et qu'il était à l'autre bout du monde sur son bateau.
Ouais. Est-ce que les réalisatrices et des réalisateurs que vous êtes sont en fait des menteurs?
Des menteurs qui disent la vérité, sûrement. Ouais.
Des affabulateurs.
Ouais. Oui,
des...
c'est des travestissements.
Bah, on invente.
On invente, voilà.
Mais
ça rejoint toujours une forme de vérité quand même.
Mais on est plus près de la vérité que ceux qui ne mentent pas.
Ouais. Moi, je crois aussi.
Débrouillez-vous avec ça.
Vous avez 2 heures.
Débrouillez-vous avec ça.
Non, mais on pourrait rassurer tous les parents qui nous écoutent. Si leur enfant ment, peut-être qu'ils vont devenir de grands réalisateurs. Dans
mais
la
un
vie.
Enfant qui va... Qui
raconte des histoires.
Qui, tout d'un coup... pense pendant un quart d'heure comment il va développer le mensonge pour justifier du fait qu'il n'est pas arrivé à l'heure à l'école, c'est un type qui a beaucoup de chance dans la vie, c'est-à-dire c'est prolifique.
Non c'est mais raconter des histoires, c'est une punition quand on est enfant, on punit un enfant, qu'est-ce que tu m'as fait, tu me racontes des histoires, mais ça devient un métier. Et
ou pas, mais en tout cas
ou
c'est...
Pas, oui.
Et puis parfois c'est pas mal d'être puni, je veux dire, ça aide aussi.
À quoi?
Bon, à penser, à réagir, à se demander comment faire pour arriver à imposer ce qu'on veut imposer.
À mentir mieux.
Voilà, à mentir mieux, par exemple.
Déjà.
Elle est belle, la France, hein.
Non, mais tout est comme ça. Quand votre émission marche pas, que personne ne rigole ou quoi, vous demandez pourquoi. Et après... Ça
d'abord, on va se poser la question.
Moi, je rigole jamais. Beaucoup. Je ne demande pas pourquoi, je punis d'abord. Après, on réfléchit.
Ah, voilà, d'abord, ça, c'est une technique. Ça.
Ça, c'est un art de vivre chez lui.
Que permet à Tony Marshall son métabolisme ?
Pas boire d'alcool, donc ça, pas beaucoup dormir.
Pardon ?
Pas beaucoup dormir ?
Exactement, ou du moins, ouais, enfin, ça rapporte au sommeil. Vous avez dit de dormir n'importe où, quand vous voulez.
Ah, moi, je peux dormir là, maintenant, si vous voulez.
Attendez 5 minutes.
Vous aussi.
J'ai un plaisir au sommeil extraordinaire.
C'est un don.
Et au cinéma aussi, puisqu'on va voir des films.
J'ai du mal.
Non, parce que
j'ai du mal.
Tu es dans le jury.
Oui, mais j'ai du mal à m'endormir. Enfin, faut vraiment que le film soit loin de ce qui m'accroche pour que je m'endorme.
Eh bien, c'est prévu.
Voilà.
Mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de conditions particulières pour dormir, mais de silence ou de lumière.
Vous voyez, vaut mieux que je m'allonge un peu.
Voilà. D'accord.
Je m'allonge un peu.
Et le silence?
Je mets un truc, même pas vraiment, plutôt un truc sur les yeux. Parce que je crois que quand il fait chaud sur les yeux, on s'endort bien.
Donc vous avez l'habitude des masques dans les avions?
Ça, j'adore.
C'est vrai?
Ouais, ça j'adore. Le masque, vous savez, j'avais lu un supplice grec où on avait tué un type parce qu'on lui avait coupé les paupières. Et c'était pas parce que il pouvait voir le jour, c'est parce que le sommeil vient quand la paupière chauffe l'œil.
Ah, c'est la température qui compte.
Ouais. Donc vous imaginez le masque comme ça fait double dose?
Là, vous m'avez fait un clin d'œil ou vous commencez à dormir?
Je suis extrêmement réveillée.
D'accord. À 14 ans, Benoît Jacquot se servait de François Truffaut comme d'un alibi pour ne pas aller à l'école. Mais...
T'as fini la phrase, là?
Non. J'essaie de comprendre la question.
C'est le problème qu'on a tous les jours. Hein.
Ouais.
Posons une autre, ira plus vite.
C'est quoi en rapport avec les 400 coups?
Attendez. Donc, il se servait de François Truffaut comme d'un alibi à 14 ans pour ne pas aller à l'école. Mais quel était cet alibi? Quel était le prétexte? Il disait, je ne vais pas à l'école parce que...
Je vais au
François
cinéma.
Truffaut m'a
je
invité.
Cinéma,
non, ne dites rien, surtout.
Ah, voilà,
ne
dites rien.
Parce que ça sert à rien, l'école.
Il m'a demandé un conseil cinématographique.
On n'est pas loin.
Mais il veut que je joue dans son film.
Ouais, allez. Non. Vous alliez travailler avec lui?
Oui, je racontais que je l'avais rencontré, ce qui était vrai d'ailleurs, et qu'il m'avait proposé immédiatement, étant donné mon talent instantané,
à 14 ans,
de venir
travailler avec lui,
l'assister, de faire stagiaire.
Et ça passait?
Ce que j'ai fait plus tard. Bah non. Après, mon père, ça l'a inquiété. Je crois qu'il a il s'est adressé à Truffaut, qui était extrêmement affable. Truffaut lui a répondu, d'ailleurs, a répondu à sa lettre en lui disant qu'il fallait pas faire attention. Ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était très bien que
encore
les enfants racontent des histoires. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai assez bien connu Truffaut plus tard, quand je me suis mis à faire des films, qui défendait beaucoup, et qu'un jour, il gardait toutes les lettres qu'il avait reçues. Truffaut, toutes. Dans son bureau près des Champs-Élysées, il m'a montré la lettre de mon père.
Voilà. Alors, non seulement il est gardé, mais il est rangé bien, il est classé.
Ah, c'est classé, pour retrouver. Mais alors de façon quasiment soviétique.
Incroyable, ouais. Incroyable. Ouais. Vous avez beaucoup menti dans votre vie.
je continue, rassurez-vous.
Ah oui, donc tout ce que vous racontez est faux.
Il y a à peu près qu'à moi que je ne mens pas.
Et encore.
Et voilà, tout juste.
Et encore. Ouais. Tony Marshall est la seule femme réalisatrice à avoir gagné un César.
Oui, une récompense.
Exactement.
Ouais.
Vous êtes la seule femme réalisatrice, la seule femme à avoir le César de la meilleure réalisatrice.
Oui.
Non, du meilleur réalisateur.
Maintenant, ils ont bien compris que ça ne pouvait pas s'appeler réalisateur, donc ils ont appelé ça la meilleure réalisation.
Mm-hmm. Mais vous êtes la seule femme, c'est fou.
Pour l'instant, je suis la seule femme.
Alors, évidemment, bravo, mais en même temps, c'est dingue.
C'est dingue, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, même un petit machin qui s'appelle 50-50, parce que je me dis, là maintenant, ça va
parité,
bien.
Ouais.
Ça va bien. Oui, voilà. Mais il va falloir un petit peu de temps, probablement.
Est-ce que, alors, sincèrement, est-ce que c'est il y a vraiment, vous sentez un comportement machiste dans la manière de voter? C'est quand même
de voter. Ça, je ne sais pas. D'abord, je ne suis pas sûre que dans cette académie, beaucoup de gens, au départ, votent au premier tour, c'est-à-dire donc dans les nominations.
Ils attendent de voir des premières sélections,
oui,
une tendance,
voilà.
Quoi.
Et donc, comme en général, est-ce que les femmes ne sont pas dans les films les plus vus? C'est peut-être le cas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un phénomène qui va prendre certainement un petit peu de temps par rapport au vote. Et puis, j'ai demandé à Terzian l'autre jour quelle était la proportion de femmes. On est 2/3/1/3. Dans les membres.
Ah, d'accord.
Voilà, donc potentiellement votants. Ça ne veut pas dire que tout le monde vote, hein. Je veux dire, on est inscrit,
d'accord.
Et c'est 2/3/1/3.
On parlait avec Guillaume Gallienne lundi de l'écriture dans les romans et des écrivaines. On disait qu'il n'y a pas de genre, finalement, féminin. Il y a un propos, il y a des manières d'écrire des romans avec les Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Annie Ernaux. On avait parlé de
Annie Ernaux. Et
la quatrième me reviendra.
Simone de Beauvoir,
merci. Est-ce qu'il y a un genre de réalisation féminine?
Ah, ne me dites pas ça, parce que moi film de femme, je sors de mes gonds. Je pense qu'on fait des films, avec des sensibilités différentes, etc. Moi, il se trouve qu'ayant un corps de femme, j'ai souvent écrit des personnages principaux qui sont des femmes, mais je ne crois pas qu'elles aient un caractère spécifiquement orienté sur le féminin. En revanche, faut pas me lancer là-dessus, parce que j'en ai pour 2 heures, mais je pense que dans la société, depuis très longtemps, tout est organisé sur ce que j'appellerais le masculin, et que là, il est maintenant un moment où il faut organiser ça un peu sur la mixité.
D'où le numéro 1 avec les femmes chefs, patronnes.
Voilà, chef ou en tout cas
leader.
Voilà, qu'on puisse un petit peu rétablir, mais surtout parce que ça changerait l'organisation. C'est surtout ça. C'est pas tant de prendre le pouvoir, c'est que malgré tout, il y a économiquement. Je ne crois pas que l'argent représente exactement la même chose pour les hommes et pour les femmes. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont moins bien payées d'ailleurs. Il y a quelque chose, voilà. Et pas tous les hommes et pas toutes les femmes. Et soyons pas, voilà.
Mais ça,
c'est quand même organisé là-dessus.
Ça a un peu l'air de s'arranger un tout petit peu quand même par rapport à il y a quelques dizaines d'années. Non, vous n'avez pas le sentiment que la société évolue dans ce sens?
J'ai le sentiment qu'on en parle de plus en plus.
Oui,
mais
déjà.
Maintenant, vous voyez à quel point les mécanismes, ils sont hyper coincés. Donc, pour arriver à les décoincer, il faut qu'on ait beaucoup de garçons, comme Benoît, je suis sûre.
Qui met les femmes à l'honneur dans ce cinéma, d'ailleurs.
Il faut qu'on soit dans un réel rapport de mixité et, je dirais, de diversité. C'est-à-dire, je suis toujours frappée quand je vois des séries anglaises, à quel point ils ont une représentation dans leurs histoires, qui sont des histoires romanesques, etc., des gens qu'on voit dans la rue anglaise. Et nous, c'est beaucoup plus compliqué.
En tout cas, votre jury est à majorité féminine. Je tiens le...
Tant mieux.
Ça va.
Allez, dernière question sur Benoît Jacquot, avant de parler de ce festival du film de Beaune. Benoît Jacquot ne voudrait pas finir sa carrière sans avoir réussi à faire tourner un comédien.
Gérard Depardieu ?
Exactement.
Fort
bah oui. Non, parce qu'on se connaît, on est liés depuis qu'on a à peu près le même âge, donc depuis qu'on a 18 ans, quand il est arrivé à Paris. Et on a eu plusieurs fois des projets assez avancés. Jamais ça ne s'est fait. Et c'est, moi, je lui voue une admiration à peu près inconditionnelle. Donc... J'aimerais bien, dans quel état qu'il soit.
Alors, explique-moi. J'ai du mal à comprendre le. On se connaît, on l'admire, on le respecte et c'est réciproque sûrement. Et on n'y arrive pas. Je ne peux pas croire.
C'est pas qu'on n'y arrive pas. C'est que ça ne se fait pas pour une raison, pour une autre. Ça tombe à un moment où lui est dans un état tel qu'il préférerait faire ça, que je lui propose une autre fois, ou voilà.
Oui, donc ça reste quand même sur des idées ou sur des histoires où où il ne peut pas y avoir. Enfin, ce sont des les
rendez-vous
ne se font pas.
Une fois, il y a longtemps, quand on était tous les deux encore vraiment jeunes, je crois que c'était mon troisième film, et là, c'était sérieusement avancé, ça a capoté pour des raisons politiques, figurez-vous. Okay. Voilà. Non, parce que le fond de l'histoire, c'était la guerre d'Algérie, et qu'à ce moment-là, comme ça l'est toujours, c'était un truc intouchable. Voilà.
Ah, on pouvait pas en parler, vous voulez dire, on pouvait pas le produire.
Non, enfin, il fallait.
Mais là, c'était pas un problème entre lui et vous, c'était un problème de producteur ou de distributeur.
On était prêt à le faire, le film était en préparation.
Vous étiez sur la même longueur d'onde.
Voilà, avec, de façon très solide, et avec d'autres acteurs que lui très solides. Il y avait Catherine Deneuve, il y avait Isabelle Huppert. Ça s'est écroulé faute de financement de la télé.
Toujours la faute de la télé. Le jury donc que vous présidez, Benoît Jacquot, avec Tony Marshall, avec Mélanie Bernier, Agathe Bonitzer, Lolita Chama, François Civil, Alice Izaz, Louis Do de Langsin et Nicolas Saada se retrouvera donc du 3 au 7 avril en découvrant totalement les films qui sont en compétition. Vous avez commencé déjà à voir quelque chose,
ah non,
Tony?
Rien
du tout. Rien. Benoît non plus, vous ne savez pas ce à quoi vous attendez.
Rien du tout. Je connais des gens qui ont vu 1, 2, 3 des films et qui m'en disent d'ailleurs grand bien.
Il y a déjà des échos, oui, c'est ça.
Voilà, mais sans avoir vu les films.
Et on a entendu dire tout à l'heure qu'il n'y avait aucun film américain ou anglais.
Donc non, mais il y a des Taïwanais, Philippins.
Taïwanais, Philippins, Colombiens, Argentins, Russes, Italiens.
Et pas très français. Pourquoi? C'est pas un genre d'écriture française, le policier?
Je sais pas. Ça doit pouvoir se faire, mais après, est-ce qu'ils sont bons? J'en sais rien.
Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une intrigue, un suspense, des révélations, être limite, de la transgression. Parler de part d'ombre. Il y a aussi des codes. Alors là, je parle en tant que spectateur. Des codes du polar, c'est la lumière. C'est la musique, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui va avec une ambiance.
Avec un genre, oui.
Oui, est-ce que par exemple un polar se passe généralement de nuit? Est-ce que ça aide d'être dans la nuit? Parce que c'est la nuit où il y a de la transgression, c'est la nuit où on cache des choses.
Non, vous n'avez pas
nuit.
Tort, hein. c'est souvent nocturne. Cas, ouais. Voilà, à tous
on
égards.
On tue plus
nocturne.
Facilement la nuit que le jour, ça c'est sûr.
C'est plus discret.
C'est plus pratique, globalement.
On risque d'être moins surpris. Quoi.
Voilà. Globalement.
Cela dit, d'un coup, ça me donne une idée, un polar entièrement diurne, zénital, avec une lumière.
Ouais, au Danemark.
Ça avait été fait avec Leïla Bekti.
Avec Leïla Bekti sur Canal+.
Oui, jour polaire, oui.
Absolument. Et selon les pays, j'imagine que les codes changent un petit peu. Je vois que dans la sélection, il y a un film chinois. Est-ce que on vit le polar de la même façon en Chine, dans l'esprit d'un réalisateur chinois? Ça, c'est les choses que vous allez sans doute découvrir.
On a déjà vu pas mal des films. Il y a eu quand même John Woo qui a fait beaucoup de polar. On a vu. Ils sont très violents. Ils sont avec des mafias, avec des. Alors je sais pas. Ça
dépend les Chinois d'où, hein. Taïwan ou.
Ouais. Oui.
Hong Kong ou continental. C'est pas la même chose. Mais un cinéaste comme Jia Zhangke, dont il y a Les Éternels là, qui est là, et son film est pas loin du tout d'un polar, par exemple.
Ouais. Et qui dit polar dit forcément mort, meurtre, assassinat.
Ou pression, ou chantage, ou menace, ou quelque chose. Menace, il suffit. On peut faire un suspense de 2 heures en sachant que peut-être on va tuer quelqu'un qui est. Je sais plus s'il y a un Carpenter. Je crois que je suis restée sous le fauteuil et je suis résistante. Hein.
Mais non, vous dormiez.
Qui était le. Non, pas du tout, du tout, du tout. Qui était le premier. C'est Halloween avec Jamie Lee Curtis.
Ah, non,
où ça n'est que de la respiration. C'est-à-dire, le meurtrier, on ne le voit jamais, on entend juste à côté.
C'est génial. Qu'est-ce que tu fais bien.
Atroce.
Même là, j'ai peur.
Atroce.
C'est génial.
Voilà. Et donc, quand elle arrive. J'ai dit, quand est-ce qu'elle va être tuée? Quand est-ce qu'elle va être
étranglée?
Avec quoi? Mais ça peut durer 2 heures et ça tient.
Ce festival international du film policier de Beaune du 3 au 7 avril sera un succès. Tom Villa, c'est annoncé.
Bah, je sais pas.
Bah,
vous me posez des questions. Moi, je suis pas à l'office du tourisme de Beaune.
Bah,
j'ai une tête à bosser dans une mairie. J'ai les mêmes horaires, certes, 11h, midi et demi, 2 jours par semaine, mais c'est pas une raison. Je veux dire, oui, je pense que ça va être un succès. En tout cas, il y a tous les ingrédients. Déjà, de bons films, il y a un jury de qualité, et puis Beaune. Benoît en a parlé tout à l'heure. Tout autour, c'est que des vignobles. Il y a pas un bled qui fait pas du pinard à moins de 150 bornes à la ronde. Le taux d'alcoolémie autorisé, il est 1,5 g. Il y a autant de boutiques Nicolas à Beaune que de Starbucks à Paris. Vous me dites si j'exagère un peu, hein. Mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est quitte à devoir prendre l'apéro avec le maire, autant que ça soit sympa. Hein. Et puis, attention, pas n'importe quel vin, le Bourgogne quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le Languedoc. Alors, voilà. J'ai rien contre le Languedoc, j'adore le vinaigre. Mais je veux dire, tu fais un.
Toi, tu auras des problèmes.
Mais tu fais un festival, par exemple, à Clermont-Ferrand. Je dis pas que c'est pas bien de repartir avec 4 pneus neige Michelin parce que c'est le partenaire du festival, mais force est de constater qu'une caisse de 6 dans le compartiment bagage du train, c'est plus facile à ranger. Et d'ailleurs, il y a des festivals qui sont plus cool que d'autres. L'Alpe d'Huez, Festival de la Comédie, on peut skier, c'est sympa. Cannes, la Côte d'Azur, il fait beau en mai, t'es au top. Mais tes jurys dans le festival du dramatique nord-coréen de Paris, si c'est pas sous-titré, tu comprends rien et tu rentres dormir chez toi, c'est un peu la double peine quand même. Hein. Alors là, Beaune, c'est le festival du film policier. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, comment tu choisis ta spécialité cinématographique quand tu organisais un festival? Parce que le film policier dans les Ardennes, je comprends, mais Beaune, tu vois, tu fais un festival de films d'horreur à Charleroi en Belgique, c'est raccord. Pour ceux qui n'ont jamais, été à Charleroi, comment dire, je suis pas croyant, mais je pense qu'il y a... S'il y a le paradis, il y a l'enfer et il y a aussi Charleroi. Mais non, mais c'est vrai, c'est très moche. Non, le rapport entre Beaune et la police, c'est vrai que c'est pas évident. Quand on pense à un film policier, on pense plutôt, je sais pas, quartier sensible, meurtre, action, règlement de compte. Beaune, a priori, ça a l'air plutôt tranquille. Je les ai pas tous vus, mais je crois pas avoir loupé d'enquête exclusive sur Beaune. Je veux dire, raisin, caviste, vigneron, enquête sur la guerre des réseaux islamistes bourguignons. Je l'ai pas vu, celui-ci, a priori. Non, mais Beaune, le quartier sensible, c'est un lotissement. Le règlement de compte, c'est une dispute entre voisins parce qu'il y a 3 branches du pommier qui tombent dans le jardin d'à côté. Niveau scénario, c'est plutôt léger. En tout cas, j'ai vu la programmation, c'est costaud. Même Augustin Trapenard, il connaît pas tout le monde. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne émission. Et puis, si vous avez des idées de lieux de vacances, je suis preneur parce que là, je crois que il y a 2-3 régions où je pourrais pas aller.
Ah, t'es cramé, ouais.
Pour des raisons évidentes de voilà.
Merci Tommy. La bande originale, lundi sur France Inter. Ça se prépare combien de temps à l'avance un festival? Être membre du jury, vous avez été contacté par les organisateurs, j'imagine. Est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Il y aura qui? Il y aura quoi? Comment ça se passe? Comment vous organisez votre emploi du temps, Benoît Jacquot?
Si on est disponible ou non, si on est disponible et que à la fois le lieu évoqué est intéressant et que la programmation, les films sont réputés bien, bon, c'est très bien, c'est très agréable, puis de se retrouver. Moi, je sais pas, à peu près tous les jurés qui sont avec moi.
Ça vous fait plaisir de les retrouver.
Des amis, ouais. Ce sont des gens. Je pense que c'est plus ou moins volontaire.
C'est vous qui les avez choisis.
Non. Mais on me dit il y aura. Alors il y aura. Est-ce que ça te va? Voilà. On me dit il y aura Tony.
C'est pareil. Moi, c'était juste la date. Je me suis dit ça doit pouvoir coller. Et on m'a dit le président du jury, c'est Benoît Jacquot. J'ai dit allez, banco.
Ça, c'est
Benoît
fait.
Benoît Jacquot, Polar, Benoît Jacquot. À l'inverse, on va discuter, on va se fâcher, voilà. On va faire des trucs.
Tony, à l'inverse, si ça avait été, j'imagine qu'il n'y a aucune personne que vous n'aimez pas dans ce métier, évidemment, c'est impossible, mais si c'était quelqu'un que vous n'aimiez pas, auriez-vous refusé en disant, non, mais moi, je me vois pas passer 4 jours avec un tel?
N'aimerais pas pour quelle raison? Faudrait
non, mais
vraiment.
Que vous n'aimez pas, peu importe la raison.
Il faut que ce soit un peu intéressant, quoi. Qu'on se dise, alors, d'une part,
quelqu'un
j'adore
contre,
les polars.
Quelqu'un qui est contre la parité.
Et d'autre part, non, ça, je m'en fous, à la limite, on va discuter, mais non, c'est de se dire est-ce qu'on va pouvoir avoir des discussions intéressantes, parce que c'est quand même ça le but d'un festival, c'est de pouvoir échanger sur les films qu'on voit et de se bagarrer quelquefois en disant mais je veux que ce soit celui-là qui et comment voilà.
Mais comment convaincre l'autre de son engouement ou de sa passion quand on est devant un tableau, on est ému ou on n'est pas ému, mais on peut pas débattre et ni convaincre quelqu'un d'être ému.
Ça, je suis d'accord.
Il est touché ou il est pas touché.
Oui, mais à partir de là, à partir d'une communauté d'émotions éventuelles, il y a des arguments de toutes sortes qui peuvent intervenir, jusqu'à quel point ce prix peut faire du bien à ce film qu'on aime, s'il a un distributeur, s'il a une sortie prochaine, si au contraire il n'en a pas du tout et qu'il pourrait peut-être en trouver une à l'occasion d'une distinction là.
Voilà, c'est ça le but, c'est de mettre aussi une loupe grossissante sur le film. film en disant il a eu le prix, donc
bah oui.
Bah, ça va forcément l'aider à avoir une sortie. Et on sait bien que les sorties de films d'un certain nombre de pays sont de plus en plus difficiles.
Non, et ce festival a une réputation assez assurée pour qu'on puisse se poser vraiment la question et que ça devienne un argument important. Parce qu'il y aura toujours, sur les je ne sais plus combien de films on va voir, il y en aura toujours deux, trois qu'on trouvera dignes, au moins, qu'on trouvera dignes d'intérêt, d'émotion, voilà, après.
Alors, sans vous vexer, vous n'êtes pas le seul jury dans cette compétition. Il y a également le jury police, je le rappelle, avec de véritables éminents membres de la police. C'est Daniel Thierry, commissaire divisionnaire honoraire, qui sera la présidente du jury. Et puis d'autres commissaires inspecteurs et autres inspectrices feront partie de ce jury. Et puis il y a le jury 109, présidé par Samuel Benchetrit, qui là aussi va avoir, d'abord dans son jury, il y a Iris Bry, jeune comédienne, Esther Garel et Diane Rouxel, qui vont juger les premiers films. Ou en tout cas,
109, c'est S.A.N.G.
S.A.N.G, oui, absolument. D'accord. Absolument, mais c'est un jeu de mots autour aussi de films qui sont jugés étant films de jeunes réalisateurs également. Voilà, voici... Jeune, au niveau de son sang, à mon avis, il est chargé. Hein. Sur le papier, il est jeune. Guillaume Audier.
Ça va les amigos ?
Oui !
Alors on parlait d'eau la semaine passée, on va parler de feu cette semaine. Et oui, je suis comme ça, moi. Un jour je suis ici, un jour je suis là-bas. On m'appelait l'insaisissable. Dans mon cours de French cancan. Et le prof disait aux autres, vous voyez le virtuose là-bas, dans sa combinaison en pelure ? Eh bien, c'est Ernesto, c'est l'insaisissable. Il y avait un respect à l'époque, contrairement à ici. On va pas revenir sur cette histoire de violence, hein, Nagui. Tout a été filmé la semaine passée. Non, les prud'hommes, ils m'ont dit, en tout cas, nous, on a tout ce qu'il nous faut. Hein, vraiment, il a vérifié vos mails, hein. Je pense que mon petit doigt me dit que c'est bientôt fini, les positions subalternes, tout ça. Tu vois, c'est bientôt fini.
Mais ça va pas.
Alors, mais c'est pas le propos. Ah bon, parce qu'il y a un propos. Absolument. Alors, je suis en pleine tournée en ce moment. C'est très solitaire comme exercice. Vraiment, j'en chie les sucriers. Vraiment, mais au moins je visite un peu votre beau pays. C'est une expression belge. J'en chie les sucriers. Bien. C'est joli.
C'est joli.
J'en chie les sucriers. Retenez ça pour le
prochain. On a mal pour toi.
Ouais, j'en quel côté. Je vois bien Karine Viard. J'en chie les sucriers. Ce serait bien.
Sucre en poudre. Hein.
Je dis donc que c'est dur la tournée, mais au moins je visite un peu votre beau pays de voleurs de trophées. Et
pas la Coupe du Monde, on l'a mérité, monsieur.
Absolument. Alors, et samedi, figurez-vous, je suis à Toulouse. Et sur qui je tombe à Toulouse ? Jean-Pascal de la Starac. Oh ! Dans le club à striptease des Chevaliers du Fiel. C'est formidable, non, c'est pas vrai. Bien essayé. Mais je tombe sur une manif des Gilets jaunes. Et vous connaissez ma position sur les Gilets jaunes. Moi, je considère que, voilà, après... Ceci dit, par parenthèse... parenthèse, en me baladant parmi les Gilets jaunes toulousains, je me faisais la réflexion sur le côté extrême-gauche, extrême-droite. Et je me disais, eh bien... Si c'est ça l'extrême droite à Toulouse, elle a quand même une bonne gueule de régisseur de cirque. Hein. Vraiment, il y a certains mecs, tu disais, lui, s'il attaque la police, c'est avec son diabolo. Vraiment, franchement, le truc le plus violent qu'il puisse faire à un flic, c'est lui faire sentir ses cheveux. Vraiment, je pense. Hein. Dans mes souvenirs, moi, les fachos, ils ressemblaient pas à ça, tu vois. Dans mes souvenirs, les fachos, ils ont jamais crié justice sociale pour mes poux. Mais c'est pas le propos. Ah bon, parce qu'il y a un propos? Absolument. Je le dis depuis le début qu'il y a un propos. Putain, le salé est là quand vous serez à la tête de l'émission. Au moins, vous écouterez les gens. Eh bien, le propos, figurez-vous, c'est qu'à un moment, il y a un camion de pompiers qui a fendu la foule. Des Gilets jaunes. Et hors coïncidence, le matin même, je lisais un dossier sur les pompiers dans Libération qui titrait « Le SOS des pompiers ». Eh bien, d'habitude, autant je peux être fasciné par les titres de Libération, autant là, je me suis dit « Le SOS des pompiers, oui, ça met moins 9 piques en vin blanc dans la gueule, ça je le fais. Franchement, c'est quoi, 42 fièvres, une rage dedans, je le trouve, vraiment. Là, tu sens qu'à 23h, vendredi, au beau du rouleau, il y a Geoffrey qui a fait « Vous êtes sûr, les gars, le SOS des pompiers, on a pas mieux ?» Quelqu'un lui a fait « Patron, moi, c'est le pompon pour les pompiers. Non. » Ok, ton chèque est prêt à la compta. Ceci dit, le dossier était édifiant, en plus d'intervenir une fois sur 5 pour rien, les pompiers, ils se font régulièrement menacer, agresser, etc. C'est horrible, j'ai entendu qu'il y a une augmentation de 213% des agressions sur les pompiers dans tous les milieux sociaux confondus, c'est hallucinant. Mmh. Alors ma position, c'est moi je pense qu'il faut arrêter d'embêter les pompiers. Et je sais ce que vous allez me dire, oui, le Nobel est à ta porte. plus personne n'a révolutionné la pensée occidentale aussi fort depuis Magic System. Je sais, on se moque, mais si on remet les choses à plat, c'est quoi le problème des gens avec les pompiers, quoi? Je parle pas des 12 pompiers qui posent à poil dans leur calendrier. Eux, je comprends que les gens soient fâchés. Vraiment, même moi, j'ai cassé mars et octobre à hauteur du sgeg, vraiment. Ça leur apprendra à humilier les gens. Putain, ça a enfumé deux nids d'abeilles dans sa vie, ça fait le malin avec ses abdominaux, c'est une blague, quoi. Mais les autres, Ceux qui mettent leur santé au péril de la communauté, sans le côté autorité de l'État, flashball, couteau dans la gorge, en fait tout ce qui est monopole de l'usage légitime de la force physique. On a, je fais pas de leçon, on a tous lu Max Weber. Enfin, presque tous, no offense Daniel. Mais sérieux, les pompiers, moi ça me donne envie de crever dans une toilette sèche, vraiment. Et alors la bonne nouvelle, ceci dit les amis, c'est que quand il a fendu la foule des gilets jaunes à Toulouse, eh bien le camion il s'est fait applaudir. Et ça m'a fait chaud au cœur. Allez, bonne émission les amis.
Classe, merci. Merci. La bande originale. Dans quelques instants, nous recevrons Philippe Rouillet, journaliste cinéma positif et président du jury de la critique au Festival international du film policier de Beaune. Mais d'abord, la musique, la bande originale. On disait que la musique compte essentiellement pour un film. C'est une deuxième écriture pratiquement qui accompagne un film. C'est pas uniquement une illustration, mais c'est aussi l'écriture de vos villes. La musique que vous écoutiez, par exemple, dans les années 60, Tony Marshall, c'était...
Ça, c'est l'histoire.
Alors lui aussi spécialiste des bandes originales, Gainsbourg, quel compositeur.
Mais c'était surtout comme un film ça, ça
Mélodie Nelson,
un disque. Oui. Ouais, pour moi ça racontait, c'était une, comme un opéra-film.
Qui est un album culte, mais encore plus dans les pays anglo-saxons. Vous parlez bon de Mélodie Nelson aux États-Unis ou en Angleterre, c'est un album mais cultissime, moi, bien plus qu'en France. Bien plus qu'en France.
C'est sublime.
Et Will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, voulait faire une reprise et une comédie musicale de, sur Mélodie Nelson.
Il l'a pas fait.
Dieu merci.
Point encore. Point encore. Ça vous évoque.
Alors, non,
du tout.
Avec les paroles françaises.
Ouais, avec des paroles françaises. Ouais. Enfin, d'après ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ça arrive, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, Tony Marshall, Gainsbourg ?
J'écoutais ça, je sais que j'étais plongée dans une atmosphère de narration entre la mélancolie, l'amour, le mystère. Enfin, voilà, je peux mettre ça comme ça et tout d'un coup, j'écris et voilà.
Ah, vous écrivez en écoutant de la musique ?
Souvent.
Est-ce que vous choisissez la musique en fonction de ce que vous écrivez ?
Quelquefois, c'est dans un sens, dans l'autre, ça vient après, ça se mélange, mais en tout cas, ça, c'était, si je le mettais derrière, j'étais dans un, ça rentre dans mon corps et ça me permet de rentrer dans une humeur et des personnages qui sont, voilà, oui, ça aide beaucoup. Enfin, c'est pas que ça aide, c'est que c'est inspirant.
Oui. La musique, le cinéma, on pourrait se dire que vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite. On a évoqué votre mère, Micheline Prel, votre père aussi, William Marshall, acteur, réalisateur. Mais en fait, vous expliquez dans les interviews que c'est pas parce que votre mère était actrice que vous avez aimé le cinéma, c'est parce qu'elle était cinéphile.
Oui, c'est vrai, c'est parce qu'elle m'a emmené beaucoup, beaucoup au cinéma et qu'elle a eu en plus le bon goût d'habiter la porte à côté du studio des Ursulines, ce qui fait que j'ai passé ma vie à voir des bouts de Bergman, des bouts d'Eisenstein, puisque je rentrais de l'école et je rentrais dans le cinéma avant de rentrer chez moi. Donc voilà, c'était...
Elle voit des films en cours de route.
Ben oui, quand je rentrais. Donc c'était pas forcément à l'heure à laquelle le film commençait.
De la séance, ouais.
Et c'était pas des films pour mon âge. Donc c'était souvent en noir et blanc, c'était souvent... Et puis ma chambre donnait sur la cabine du projectionniste qui fumait beaucoup et qui ouvrait la porte de la cabine qui avait un petit escalier comme ça en métal pour pouvoir sortir. Et la porte était ouverte et j'entendais le son des films pour m'endormir. Donc j'entendais... Je crois que la nouvelle vague, pour moi, le film de Godard est arrivé par le son, parce que il y avait tout d'un coup quelqu'un qui lisait une phrase de livre, il y avait un coup de feu, il y avait des bruits de klaxon, enfin, tout était mélangé, donc j'arrivais à fabriquer des images qui n'étaient pas celles du film, mais qui étaient un truc imaginaire comme ça, très différent de ce qu'on entend normalement dans la construction des films.
Vous réalisiez déjà?
En je fait, sais pas, mais en tout cas,
dans
c'est
votre tête.
Moi, ouais, je suis autant spectateur que réalisatrice. Hein. Je suis aussi contente d'aller voir des films que d'en faire.
Que de les fabriquer. Plaisir. Benoît Jacquot, vous écoutiez comme musique à l'époque. Ah, vous savez vous amuser, vous.
Bah, écoutez, on est là pour le festival de films polars, là.
Alors voilà, on est en plein dedans, Vertigo.
C'est là que ça se passe quand même, pour commencer.
Et vous avez un point commun assez intéressant avec Tony Marshall.
Bernard Herrmann pour la composition de la musique de Vertigo d'Hitchcock. Ouais.
Et le point commun avec Tony Marshall, c'est que vos premières images de cinéma, vos premiers souvenirs de cinéma, c'est auditif aussi.
Bah oui, c'est ma mère qui me racontait les films qu'elle allait voir. Elle allait en voir beaucoup. Elle était d'ailleurs une grande admiratrice de Micheline Prel. Et elle me racontait, enfin, elle avait comme devoir, c'est une sorte de pacte entre elle et moi, très proustien, qu'elle vienne après les films qu'elle avait vus en compagnie de mon père, je suppose, qu'elle vienne me les raconter. Et les films qu'elle me racontait le mieux et qui m'électrisait, c'était les films d'Hitchcock. Voilà. Donc, dont Vertigo.
Ouais. Et premier souvenir de film enfant, avec les parents ou avec votre mère?
Avec ma mère, bon, c'est à peu près, c'est comme beaucoup, c'est Bambi, sur les boulevards, et ma mère obligée.
Mais comment une maman peut.
Mais je me demande. Et elle se demande encore quand j'en parle, parce qu'elle a été obligée de me sortir tellement je hurlais.
Évidemment.
Traumatisme. Aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, t'avais pas les bandes annonces, les trucs de comment tu peux savoir que Bambi, ça va être comme ça?
Ouais, quand même, ouais. Bambi. Mais tout le monde savait qu'à la fin, mais personne ne pouvait, à moins de le voir, de l'éprouver, savoir d'avance que ça allait être quelque chose d'aussi déchirant. Encore aujourd'hui, je peux pas voir Bambi.
Bambi, non, c'est atroce.
Alors, vous avez l'air extrêmement sensible, mais vous avez été adolescent. Benoît.
Les pires criminels sont de grands sensibles.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Vous étiez je vais pas dire un petit voyou, mais une petite frappe adolescent.
J'aime mieux Petit Voyou quand même.
C'est vrai, préférer Petit Voyou.
C'est dur.
Je sais pas, la bande du Rockstar.
Mais après tout.
Vous étiez dans la bande du Rockstar.
Bah ouais, enfin, oui, ouais, sans doute, ouais. Oui.
Alors c'est quoi?
Il y a prescription.
Enfin, j'avais affaire aux flics en tout cas.
Mais c'est quoi la bande du Rockstar? Ouais, c'est quoi la bande du Rockstar pour ceux qui connaissent pas?
La bande du Rockstar, c'était. On appelait ça aussi les blousons dorés. C'était les fils de bourgeois qui faisaient sur les Champs-Élysées au Rockstar en haut qui se retrouvaient là et qui cassaient tout autant que possible.
C'est ça.
Blouson doré à gilet jaune, il n'y a pas loin, hein, sur les Champs-Élysées. Voilà,
c'est la même adresse, en tout cas.
J'ai pris ce genre de... c'est très difficile à argumenter, ça.
En 1993, Tony Marshall, vous écoutiez...
Avant que j'écoutais ça.
Ouais. Bah oui.
C'est chiant. Non. T'es pas là.
Énorme succès des années fin des années 80, début des années 90. Hein.
Ouais.
Énorme. Vous êtes une fêtarde, vous aimiez sortir en discothèque?
Moins, mais je l'ai été.
Vous fûtes.
C'est-à-dire, j'adore danser, donc ça, je peux dire que c'était.
Bah ouais, incontournable.
C'était extraordinaire.
Incontournable.
Et par ailleurs, comme là, vous savez, on a, pour votre émission, on nous dit, Nana, vous avez monté votre boîte de production, donc je me suis dit, ça, j'ai pensé à Fric. Parce que la première fois que j'ai entendu le fric c'est chic, j'ai cru que ça s'écrivait F-R-I-C.
Non, c'est le
frisson. Après, j'ai vu que c'était F-R-E-A-K. Et je me suis dit, c'est bien, c'est les deux. Parce qu'une production, il faut chercher du fric, il faut faire des films. Freak. Donc c'est ça. C'est, voilà.
Non,
c'est
on est plutôt dans le frisson, on rejoint le film policier.
Voilà.
Freak, c'est ce qui fait peur.
Le spectacle qu'on a fait ensemble avec Jean-Paul Gaultier, c'est une chanson emblématique. Donc voilà.
Donc c'est Tabo Tabo Film, votre société de production. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance et qu'on décide de devenir sa propre patronne?
C'est pas tant pour être ma propre patronne que pour avoir un. On n'a pas le temps, enfin, à part Benoît qui fait un film tous les ans et qui est exceptionnel, moi je mets quand même. Je crois que je fais un film tous les 3 ans, mais entre temps, parce que ça me demande physiquement, voilà. Et il y a tellement d'histoires que je suis. Là, je me dis, j'aimerais bien produire les histoires des autres pour pouvoir que d'autres films se fassent. J'aime beaucoup, moi, les séries. Je trouve que c'est un mode de narration formidable. Donc voilà, c'est
très
vrai
tendance en ce moment. Ça
explose. Nous, on a commencé il y a
très
longtemps.
Mais là on donc, et je ne sais même pas si on est au climax de la mode des séries, mais ça n'arrête pas.
On va voir que ça, j'espère que ça ne va pas exploser. Mais ça permettait, moi qui aime les personnages, de les faire vivre sur beaucoup plus longtemps, de les faire mourir, revivre, d'avoir des procédés.
De s'attacher à eux. Voilà. Dans ces années 90, 94, Benoît Jacquot, vous écoutiez... On replonge dans l'ambiance de Casanova.
C'est des films d'époque, donc de la musique d'époque. C'est pas très pop, mais je suis bien obligé de... Voilà, c'est comme ça,
la
c'est
vie
très
de,
beau.
La vie de Marianne.
Ah ouais, ça c'est, c'est quelque chose que j'avais fait pour la télé, ça.
Ouais, vous avez adapté.
Avec Virginie Ledoyen, c'était son premier rôle quasiment. Ouais.
Et on a la sensation dans votre filmographie que vous aimez bien ces allers-retours, que... les périodes comme ça, bien passées derrière nous, ça...
Mais je dois dire que j'aime beaucoup comme spectateur les films d'époque, ouais. Et comme cinéphile, et donc du coup, bah, ayant la possibilité d'en faire, j'en ai fait. Et comme ça a plutôt marché, grosso modo, ouais. On a fini par me demander d'en faire.
Les Adieux à la Reine, ouais. Casanova, Dernier Amour.
Oui.
Ouais. Alors justement, Casanova est toujours à l'affiche. Parlons de ce film. Qu'est-ce qu'il y a de délicat à faire un film d'époque au-delà de l'écriture, de la réalisation, de la direction et du casting? Est-ce qu'on ne se met pas des éléments encore plus délicats
Pour nécessairement. Bah, enfin, pour moi, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'à un moment, assez vite, autant que possible... Grâce aux interprètes, autant que possible, on oublie que c'est un film d'époque et que l'époque qui est représentée, qui a des siècles, devienne absolument présente et contemporaine en quelque sorte, par la grâce du cinéma.
Quand il y a quelqu'un qui fait caca debout dans un parc, on sait bien qu'on n'est pas vraiment très actuel là.
Non, mais tout.
Ça dépend s'il est alcoolisé ou non.
Non, mais la préoccupation, en tout cas, c'est celle du désespoir amoureux. Et ça, c'est contemporain.
Intemporel. Ça, évidemment, sans ça, il n'y aurait ni chanson, ni roman, ni film, ni comédie, ni drame. Ouais. Donc, voilà, on est sûr que. Voilà.
Ouais. Pour Dernier Amour, vous avez. Il y a un repérage de décors qui est incroyable. Au-delà, encore une fois, de l'écriture, on parlait du style, la manière de réaliser. C'est un exercice aussi de trouver le lieu où on va donner vie à son film.
Ah bah, pour moi, c'est décisif. C'est-à-dire qu'un film a un ou des lieux, et c'est par ça qu'il faut commencer, les lieux que vont habiter les interprètes. Ça, oui, c'est extrêmement important. Parce qu'un film, pour moi, c'est vraiment comme une maison qu'on construit.
Et c'est le cas avec Dernier Amour, en plus. On est vraiment là-dedans. Ouais.
Et on ouvre plus ou moins la porte et on fait habiter la maison par ceux qui vont interpréter les personnages. Voilà. Mais c'est un travail d'architecte.
On est en 2000 à ce moment, Tony Marshall, vous écoutiez.
Et en 2000, Toni Marshall, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le César de la meilleure réalisatrice pour Vénus Beauté. Est-ce que vous y croyez en allant à la cérémonie? Est-ce que psychologiquement, on parlait tout à l'heure des barrières que les femmes peuvent se mettre, du rapport à l'argent qui est peut-être différent, qui fait qu'on est moins payé. Est-ce que vous allez à cette cérémonie en vous disant « j'ai ma chance
absolument
ce soir » ?
Absolument pas, d'autant plus que ce film avait été extrêmement difficile à monter, donc je n'y croyais pas du tout. Du tout.
Ouais.
Et je suis même, alors pour revenir sur ce que vous dites, quand il se trouve que j'en ai reçu 4, c'était l'année 2000, donc il y a marqué 2000 dessus, c'est trop beau. Et c'était meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur film. Donc, ouais. Je suis allée m'excuser auprès de Luc Besson, Patrice Lecomte, Jean Becker.
C'est pas vrai.
Je leur ai dit si. Et je sais pourquoi je suis allée m'excuser, c'est parce que cette année-là, il y a une femme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelait Fablaine Vonnier, qui était distributrice, qui avait accepté, parce que c'est grâce à elle que le film a fini par se monter, et qui avait eu l'idée géniale d'envoyer, à l'époque c'était une cassette VHS du film, à tous les votants. Qui en général ne vont pas au cinéma, oui. Soyons clairs. Donc, je pense que beaucoup de gens l'avaient vu.
C'est des gens du métier, comme les gens du métier ne vont pas au cinéma.
Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens du métier qui ne vont pas assez au cinéma. Je crois, hein, je m'avance peut-être, mais je crois qu'il y en a pas tant que ça.
D'accord.
Et elle avait eu cette idée de génie et. Ça m'a été beaucoup reproché comme ça, hein. Et l'année d'après, tout le monde a envoyé. Maintenant, c'est un classique, si vous voulez. Mais c'est Fabienne Vonnier qui a eu cet édit-là. Et je me souviens d'être allée au Fouquet's après en disant vraiment, je suis désolée. Excuse-moi, tu vois, ça doit être la cassette, machin. Je suis allée m'excuser auprès de tout le monde d'avoir gagné. Ce qui prouve bien quand même que il y a quand même un truc.
Ouais,
hein.
Y a un problème de positionnement
voilà,
là, à ce moment-là.
Il y a un petit truc quand même.
Est-ce qu'on connaît un réalisateur homme qui serait venu s'excuser auprès des autres parce qu'il a raflé la mise?
Peut-être Benoît.
Benoît Jacquot, justement, en 2000, vous êtes avec cette musique Puccini et Callas. Et encore dans des films à costumes.
Oui, la fosse suivante en 2000.
Vous êtes très Marivaux, hein.
Oui, c'est vrai. Oui.
Saad, Tosca, Adolphe, et à chaque fois, vous le dites dans les interviews, c'est très touchant. Vous avez la sensation, vous proposez des rôles donc à des interprètes masculins, mais que finalement, en voyant le film avancer, c'est la femme qui va le mieux prendre votre cadre.
Au désespoir des interprètes masculins. Ouais.
C'était le cas de Daniel Auteuil, pas au désespoir, mais il s'en est rendu compte en tout cas que dans le film, finalement, c'était pas.
Oui, je fais du cinéma pour savoir ce que c'est qu'une femme. Voilà.
Waouh, ouais, c'est joli comme formule ça.
Ouais. Bah, c'est comme ça, hein. C'est vrai. Hein. Et au fond, du fond, c'est ça.
En ne trouvant jamais.
Ah bah, c'est comme l'horizon, ça recule à mesure qu'on avance. Là, c'est... Pour les hommes, hein. Je parle des hommes, puisque jusqu'à nouvel ordre j'en suis un, donc je parle.
Et est-ce que les femmes vous le rendent bien sur un plateau?
Jusqu'à maintenant, merveilleusement. Ouais. Donc en fait, ça obéit peut-être à un calcul. Peut-être, ouais.
On va parler de ce festival, à nouveau, de ce festival international du film policier de Beaune, avec évidemment nos invités Tony Marshall et Benoît Jacquot. Ce festival a lieu du 3 au 7 avril. Et il y a également Philippe Rouillet, bonjour, merci d'être à ce micro, un jury de la critique, dont vous êtes le président.
Oui, absolument.
Voilà. Des critiques, d'abord, les critiques sont aussi copains entre eux que peuvent être les réalisateurs et les acteurs?
Ben, c'est pareil, oui, on se voit beaucoup, c'est on voit ensemble les projections dites de presse.
Oui, mais c'est pas un panier de crabes avec qui va avoir telle interview, qui va décrocher telle exclusivité?
Ah, il y a des clans, mais on s'entend bien.
Donc,
c'est
vous...
joliment dit.
Ouais, c'est... on a essayé de définir tout à l'heure le film policier. Est-ce que
c'était pas mal du tout. L'idée de transgression, on est là. Il faut qu'il y ait une transgression pour que... Une transgression par rapport à la loi.
Par rapport à la loi, c'est ça. Par rapport à un cadre qui est donné. Voilà. Donc ce cadre, il faut le définir aussi pour savoir si on en sort ou pas.
Absolument. Et c'est pour ça que, selon les pays, les interactions peuvent changer. Mais il y a, dans tous les pays, vous avez des gangsters, des voleurs, des assassins et des justiciers.
En tout cas, il y a des lois. Dans tous les pays, il y a
des lois. Dans tous les pays, il y a des lois.
Ce ne sont pas les mêmes.
Voilà.
Les codes ne sont pas les mêmes. Donc, on garde cette idée de transgression. Est-ce que c'est un genre qui a toujours existé depuis que le cinéma existe?
Oui, parce que, en fait, c'est un genre où il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Donc, dès la période muette, les cinéastes, en fait, ont eu envie de tourner des poursuites, des justiciers, des policiers qui poursuivent des flics. Donc, dès les années 10 aux États-Unis, c'est Griffith. Et en France, on fait des séries qui sont les petits feuilletons qu'il y a en première partie des films. Et il y a déjà Fantomas en 1913, ouais. Le génie du crime.
Et en littérature, il y a eu Diderot, Sophocle. Donc, on est quand même sur l'enquête. Vraiment.
Mais, je veux dire, le frisson, le truc, ça plaît à tout le monde dans tous les pays, sous toutes les latitudes.
Et pourtant, c'est pas jugé par la presse dite intello comme étant un genre noble.
Alors, vous savez que ça commence quand même à bouger.
Hein. Il serait
temps. Ça commence à bouger. C'est vrai que on dit toujours dans les grands festivals de cinéma, on va pas primer des films qui sont directement sur l'émotion, le suspense, le côté haletant. Mais bon, je veux dire, on a quand même eu une palme d'or à Pulp Fiction. Le Silence des agneaux a ramassé des tas d'Oscars en 91. Donc, je veux dire, les mentalités changent. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui vous disent que Hitchcock est leur cinéaste préféré. Hitchcock, c'est vraiment le maître du suspense. Et ben voilà, donc il y a même des intellos qui aiment Hitchcock.
Ouais, mais enfin, Olivier Marshall a eu 9 nominations au César et zéro récompense.
Bah oui, ben d'accord, mais il suffit pas non plus de faire un film policier pour gagner.
Non, non, mais c'est pour un bon film. Olivier Marshall.
Oui, mais la balance en 83 a tout raflé. Hein,
c'est vrai.
Le Bob Swain.
Quel est votre classement, le top 3 de vos films policiers préférés?
Alors c'est marrant parce qu'on s'est pas concerté avec Benoît Jacquot, mais je mets Vertigo, évidemment, hein, qui est formidable sur Froide. Et puis après, je mettrai le Samouraï de Jean-Pierre Melville,
ouais.
Avec Delon, qui est une histoire de... Bah, lui, c'est un tueur à gages, et puis il y a François Perrier, le policier, qui essaye de l'attraper. Et puis s'il fallait un troisième film, allez, je mettrai Seven, de David Fincher, ouais, qui est aussi une histoire de serial killer et du point de vue des enquêteurs cette fois. Mais ce qui est très intéressant avec
Il y a pas eu Je Suspecte par exemple qui avait apporté un
qui est bien, mais je veux dire, vous me demandez trois, je veux dire, vous me demandez cinq ans, je mets Je Suspecte qui est super avec Kaiser Soze, qui est presque devenu un nom commun. Celui-là, c'est une sorte de Kaiser Soze.
Est-ce qu'il y a une touche, une patte du film policier français? Puisque tout à l'heure, on disait qu'il y avait justement pas beaucoup d'Américains au festival.
Il y en a eu, c'est-à-dire que dans les années 50, il y avait un milieu qui était très présent, notamment à travers les séries noires et tout un argot. Et donc, il y a tout le cinéma autour de Becker, de Jean Gabin, Lino Ventura. Et puis, ça s'est décliné avec Belmondo et Delon. Et puis, de l'autre côté, il y a le côté, et alors là, on peut retrouver Beaune, c'était le côté un peu chabrolien, c'est-à-dire dans le milieu bourgeois, le mystère, le crime passionnel, on enquête sur les dessous, et ça c'est un peu Simenon, si vous voulez, cette tradition-là, elle est très présente dans le cinéma français. Et il y a un film français cette année à Beaune qui n'est pas en compétition mais qui est récompensé, qui a le prix Claude Chabrol, qui est Jusqu'à la garde. Et vous voyez, Jusqu'à la garde, qu'on a tous aimé cette année, qui a eu des Césars et tout ça, c'est une histoire conjugale, mais en même temps, c'est aussi un polar, un thriller.
Merci Philippe Rouillet d'être venu à ce micro, journaliste cinéma positif et président donc du jury de la critique au Festival international du film policier de Beaune. On continuera d'en parler après les infos de midi avec Tony Marshall et Benoît Jacquot. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nagui.
Donc, on parle de plastique aujourd'hui.
Oui, le plastique, c'est fantastique. Comme le disait en 90 le poète, en l'occurrence Manu Ramirez d'Elmer Footbeat. Sauf qu'à part en ce qui concerne la protection contre les MST, le plastique, c'est une horreur. On en trouve partout dans l'océan. Georges Pernoud, en 40 ans de Thalassa, a vu flotter plus de salières en plastique de la baleine que de baleines. C'est la journée sans plastique sur Internet, Guy.
Bravo, on en parle après les infos. D'accord. C'est la bande originale avec Léla Kadoboudali. Bonjour Daniel Morin.
Bonjour Tanguy
Villa.
Bonjour
Tanguy Pastureau.
Sans plastique.
Pierre Maurice et nos invités Tony Marshall et Benoît Jacquot. Bonjour. Avec ce festival international du film policier, ça se déroule à Beaune du 3 au 7 avril. Ça tombe en pleine semaine en plus, c'est même pas un week-end prolongé.
Ben non, c'est un milieu de semaine avec un week-end quand même.
Ouais, c'est ça.
Si vous calculez bien.
Six, samedi, dimanche 7.
On revient le dimanche.
On revient le dimanche.
Ouais. Ah oui, d'accord, c'est un vendredi, samedi, dimanche.
Non.
Mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. De mercredi à dimanche. Oui, tranquille, en plus il va faire beau.
J'espère.
Vous avez regardé. Le problème, c'est que vous serez dans des salles de cinéma. Donc,
quand on sort, c'est bien.
Ouais, c'est important, oui, en sortant et avant de rentrer de nouveau, d'avoir
un petit rayon de soleil
du jour.
Et ça peut vous donner envie de réaliser un film policier, justement.
Ah, mais c'est quelque chose dont j'ai toujours eu envie. Il faudrait que je trouve le bon personnage qui me permet de construire l'histoire. Ouais. Je pars toujours d'un personnage, donc après il faut construire une histoire et c'est quand même un peu technique.
À propos de partir d'un personnage, vous êtes parti de Casanova, revenons sur Dernier Amour qui est sorti à la fin de ce mois de mars et qui est toujours évidemment sur les écrans. Stacy Martin et Vincent Lindon le portent, ce film. Choisir Casanova qui a été déjà maintes et maintes fois utilisé au cinéma. C'était une envie que vous portiez depuis longtemps. C'est l'histoire qui a été l'occasion.
Bah, j'ai lu les mémoires de Casanova qui s'appelle L'histoire de ma vie, très très jeune, et ça m'a immédiatement emporté et importé. C'est-à-dire que j'ai tout au long de ma vie de cinéaste, périodiquement, je pensais à faire un jour, d'après un épisode ou un autre, de cette vie, un film. Et quand l'occasion s'est présentée,
et c'était une manière
et que Vincent Lindon s'est manifesté de façon extrêmement catégorique pour interpréter ce rôle.
Il fallait un Casanova, c'est ça. Il fallait l'incarner. Et,
ah bah oui, oui.
Et vous aviez en tête Vincent Lindon depuis le début ?
Non, pas du tout. mais strictement pas.
Vous étiez sur quelle piste, quel genre
Bon, une piste sans doute plus attendue. Je pensais à un acteur italien. Et puis je pensais à un épisode un peu plus tôt dans la vie de Casanova. Donc un Casanova plus jeune que ne l'est Vincent aujourd'hui.
D'accord. Ouais. La morale, entre guillemets, de votre film, c'est finalement que Casanova a aimé, la seule femme qu'il ait aimée, c'est celle qui s'est pratiquement refusée à lui.
Ouais, vous appelez ça une morale, vous ?
C'est un classique.
Non.
Et puis est-ce qu'il l'aime vraiment ou est-ce qu'il l'aime parce qu'elle se refuse ?
Ah non, moi je crois qu'il l'aime.
Ouais.
Je crois qu'il l'aime, mais que le fait qu'elle se refuse alimente sa passion.
Elle se refuse. Il y a un pacte entre eux. Il y a un accord.
Non, mais c'est la seule. Il a vécu beaucoup d'amour, d'amitié amoureuse, et de façon très délicieuse d'ailleurs.
Oui, il y avait beaucoup d'escortes aussi. On a l'impression qu'il y a toujours une histoire de paiement.
Non, mais il a, c'est presque hygiénique. Il a besoin de
l'hygiène. Ouais.
Mais en dehors de ça, quant aux sentiments. C'est quelqu'un qui a toujours pratiqué l'amitié amoureuse à l'égalité, la plus possible d'égalité avec l'espèce féminine, si je puis dire. Donc là, tout d'un coup, il rencontre une femme.
L'espèce.
Le genre.
Species.
L'espèce masculine, Tony. L'espèce féminine.
Bien sûr.
Alors.
Ouais, non. Et pour, et comment, non, on et va pas expliquer... maintenant quand même
faire
le tri de tous les mots.
La nova et les femelles, quoi. Ah, voilà,
oui. Mais pourquoi ça je le ferai pas.
Mais pourquoi les femmes sont attirées par un Casanova, justement, par un tombeur de femmes? Et pourquoi
Mais parce que c'est pas un tombeur, justement.
Il a quand même multiples aventures.
Et
elle pourrait aussi. Je suis pas Casanova.
Non. Bon, c'était quelqu'un de charmant, donc il charmait. Voilà. Pourquoi pas? Ça existe, le charme.
Oui, mais ça existe aussi des femmes qui disent je ne veux pas.
Qu'on peut pas voir à la radio.
C'est un parallèle avec vous, Benoît Jacquot. C'est ça que vous dites, Tony Marshall. Il y a un miroir réfléchissant avec ce film.
Non, mais écoutez, le principe du charme, c'est quand même de ne pas savoir qu'on en a, pour commencer.
Parce c'est ça.
Dès le moment. Ah bah, vous
je me disais, il y a un truc qui me titille, mais je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à mettre un nom.
Ça titille pas, ça te manque.
En général,
le charmant est la dernière personne à savoir qu'il l'est, ça,
voilà, tout ça explique.
Souvent.
Non, c'est vrai.
Après, avec les heures de vol,
il y a des indices.
C'est tout. Hein.
Des indices.
Parfois, il est trop tard.
Donc, on a laissé passer le coche.
On le sait, il est un peu tard. On ne peut plus s'en servir techniquement, si je puis dire. Voilà.
Benoît, faites attention, tout ce que vous dites passe à la radio. Nous allons tout de suite prévenir.
C'est bien dit.
C'est important, on vous évite de...
On va prévenir Mélanie Bernier, Agathe Bonitzer, Lolita Chama, Alice Isaz, attention, Benoît arrive du 3 au 7 avril.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loup, enfin, c'est incroyable. Démasqué
par Tony Marshall. L'enquête sur le charme de Benoît Jacquot vient d'être résolue. Voici Tony Passion. C'est la journée, le plastique, non merci, sur France Inter, Tanguy.
Oui, c'est formidable, je suis fier d'être sur cette radio. On n'est pas payé cher, mais on a une conscience. Ça vaut tous les zéros du monde sur un chèque, ça. Enfin, c'est ce que je me dis pour ne pas pleurer. Cette journée sans plastique a été lancée à 6h20 sur Inter par la journaliste Sandy Dauphin. Logique, puisque ce sont eux qui bouffent le plastique retrouvé dans les océans.
Non.
Si ça avait été une journée contre la disparition des abeilles, c'est qu'on l'apprenait Didier Bourdon. Et au sein de la bande originale, je suis celui chargé d'être sans plastique. Ce qui est moins gênant à 45 ans que quand j'en avais 22 et qu'une fois à la maison, avec une autre personne ivre, sans le plastique, elle me disait « ça va pas être possible ». Je me la mettais alors sur l'oreille, comme on dit familièrement. Sauf Alain Flelou qui ne le dit pas, puisque sur l'oreille, il a déjà ses lunettes. Il faut choisir. À moins d'avoir de grandes oreilles, François Bayrou, par exemple, peut à la fois se la mettre dessus et en même temps ses lunettes, mais aussi ses clés de voiture et son chat. Bref, à part pour les préservatifs, le plastique, c'est un fléau. Il y a 15 jours aux Philippines, une baleine s'est échouée sur une plage, en a retrouvé dans l'animal 40 kilos de plastique, dont des sacs de course et des emballages de riz. Elle mangeait local, Philippines, donc du riz. Si elle s'était échouée en Inde, à l'intérieur, il y avait des nains de fromage et du palak paneer pour deux, avec aussi le mec de Deliveroo sur son scooter. C'est-à-dire que dans une baleine en 2019, il y a plus d'objets que chez Jiffy. Mais moi, j'ai arrêté les hypermarchés. Le week-end, je vais à la plage, j'attends la marée. Dimanche dernier, j'ai récupéré deux tabourets, du mini-dou même pas ouvert et un boîtier de CD de Céline. Il n'y avait pas le disque dedans, donc je me suis dit « Ah bah ça c'est super !» Et je l'ai gardé. Les chiffres sont éloquents, comme le disent les gens qui détestent utiliser le terme « ouf ». Un seul sac en plastique met 450 ans à se dégrader, alors qu'un maire de Lyon comme Gérard Collomb, seulement 430. 100 000 mammifères marins, 1 million d'oiseaux des mers meurent par an étouffés par du plastique ou pris dans des déchets plastiques à cause de nous. Mais moi maintenant, quand une mouette me défèque dessus, je lui dis « Normal bébé, tu te venges, je comprends, lâche tout !» Les océans sont bourré bourrée de microparticules plastiques. Vous buvez la tasse une fois, vous avez les plus de paillettes que les Bee Gees en 77 s'ils avaient dansé la bouche ouverte au Studio 54 de New York. D'ici 2050, c'est une étude, il y aura autant de plastique dans les océans que de poissons. Au hall, votre poissonnier vous dira « Alors, et pour ces messieurs dames, ce sera un flacon de canard WC comme d'habitude ? Elle a aimé son sac Carrefour à la plancha, votre fille, madame ?» Non mais avant, dans Alerte à Malibu, seuls les gens étaient en plastique. Mais si là on fait le remake, tout le reste le sera aussi.
Il y a quand même des solutions évidemment qui existent pour remplacer le plastique.
Oui, première chose, les bouteilles d'eau plastique, il faut arrêter. Hein, je comprends que pour toute une génération de personnes qui a fantasmé sur Giroud en train de siffler de la cristalline en survêt, ça signifie renoncer à ses rêves. Mais si vous achetez une gourde, bah vous la remplissez, ça contient un litre de flotte. Donc si vous buvez un peu trop vite, vous vous en foutez partout et c'est extrêmement sexy. Hein, sauf l'hiver où à cause du froid, vous attrapez une pneumonie. Mais bon, même là, c'est sexy. Verlaine est mort d'une pneumonie. C'est la mort des poètes maudits. C'est autre chose que de se faire renverser par un bus, ce qui est la mort des gens qui prennent le Vélib. En Pologne, une entreprise a même créé des assiettes qui se mangent en son de blé. Vous mangez ce qu'il y a dans l'assiette, puis l'assiette. Ensuite, la table qui est en quinoa, puis votre maison fabriquée en boulgour. Pour finir, vous pouvez manger votre mari si vous n'êtes pas vegan. Hein, bah, les mentes religieuses vivent comme ça depuis toujours. Elles n'ont pas l'air malheureuses. Jamais sur les réseaux sociaux, une mente n'a été à l'origine du hashtag « Trop seul ce soir, j'aurais pas dû prendre de dessert ». On peut se passer de plastique parce que tout ce qui est en plastique a son équivalent en matière moins polluante. Le bac à glaçons, il existe en inox. On peut aimer le camping, la défoncer à la Nice, le sexe à 4 grammes et être écolo. Notre civilisation est sauve. Les jouets des gosses, ils existent en bois. Il fait comment François Durugy, le ministre de l'écologie ? Mais il n'achète pas de Playmobil à ses enfants. Ils ont juste un établi du menuisier junior en bois et donc, il le déteste. Il a aussi pris un petit Pinocchio en bois. Quand il le voit, les gamins se mettent à crier « C'est papa !» Hein, parce que les mecs nous disent qu'ils sauvent la planète, mais en même temps, on refourgue 300 avions tout dégueu à la Chine. Alors aujourd'hui, dans la bande originale, bah, il n'y a plus de plastique, j'ai ma gourde, vous avez des gobelets en carton. Seules 2-3 personnes âgées dans le public sont venues avec leurs prothèses de hanches en plastique. Elles ont refusé de les laisser à l'entrée au prétexte que si on les ouvrait pour les retirer, elles auraient mal. Hein. Alors que c'est faux, puisqu'on n'a plus de couteau en plastique, on vous attaque directement au sabre japonais et vous n'avez pas le temps de ressentir la douleur. Bref, belle journée sans plastique à tous et je lève ma gourde à la santé de la planète.
Merci Tony Basso.
La bande originale, lundi sur France Inter.
Nous parlons du film policier, du festival du film policier de Beaune. C'est la 11e édition qui se déroulera du 3 au 7 avril avec différents jurys, vous l'avez compris, donc différentes compétitions et des prix qui sont faits pour mettre la lumière, un éclairage particulier sur un cinéma et pousser évidemment les personnes à aller au cinéma, ce qui est plutôt le cas. J'ai l'impression qu'on est dans une période ou une année en tout cas prolifique en matière de d'entrée au cinéma, Tony Marshall. Les échos que j'ai des
oui,
entrées.
Oui, je crois que les entrées sont... Je crois que les gens ont encore, Dieu merci, envie de voir des films sur grand écran. Parce que c'est quand même pour ça souvent qu'on les fait.
Vous dites par rapport aux tablettes ou par rapport aux
Oui, Netflix, j'ai du mal. Moi, ouais. J'ai du mal à regarder. C'est pour ça que, par exemple, le fameux film Roma, dont je ne sais pas si vous l'avez
il
vu.
Est formidable.
Moi, j'ai eu la chance de le voir. Ça a été tourné en 60 mm. C'est-à-dire c'est vraiment un format... absolument incroyable.
En noir et blanc, avec beaucoup de plans séquences incroyables.
Des plans séquences inouïs, ouais. Je me dis, mais comment tu vois ça sur ton ordinateur, quoi? Il y a un truc qui va pas.
Si je peux me permettre, c'est pas parce que c'est sur Netflix que vous êtes obligé de voir sur un ordinateur.
Non, mais bon, sur un écran, je veux dire, même si vous avez, voilà, il faut vous regarder, ou alors vous avez un projecteur et voilà, parce que le 60 mm, c'est un format, il y a des formats. Donc, je sais pas, je trouve ça dommage.
Parlons-en, puisque vous êtes des acteurs de ce monde du cinéma. Et c'est vrai que ces nouveaux arrivants dans la production que sont Amazon, Apple, Google et autres Netflix vont jouer ou jouent déjà un rôle très important
dans
votre métier.
Il ne s'agit pas du tout de les...
Pointer du doigt.
De les pointer du doigt, parce que je pense qu'ils doivent être en capacité, de, selon leur intérêt malgré tout, mais de produire des films ou des séries ou ce que vous voulez, enfin des on va pas appeler ça des produits, mais des œuvres assez fortes artistiquement. Ce qui est dommage, c'est la combinaison du fait que selon la chronologie des médias qui nous protègent par ailleurs, on ne puisse pas voir ces films sur un écran. Voilà, c'est juste ça le problème, c'est pas leur...
Donc vous, c'est plus le support que,
oui,
la chronologie de est-ce que ça sort en DVD, est-ce que ça sort
voilà,
et ça passe à la télé.
C'est très complexe parce ouais. que pour l'instant ils investissent malgré tout. Hein, Benoît, tu me surveilles.
Vous en pensez quoi, oui, Benoît Jacquot?
Bah, moi, je suis un peu old school, je dois dire, parce que je fais du cinéma parce que j'ai aimé les films avant même d'en faire, en les voyant dans des salles, parmi d'autres gens, plus ou moins nombreux, même si on est seul dans la salle, n'empêche que la salle est faite pour accueillir du monde avec soi. C'est triste, une sorte de solitude partagée.
C'est triste d'être seul au cinéma. Non. Quand on va,
pas forcément.
Non.
Pas
alors forcément. Écoutez, quand on va des projections, quand on va des projections presse qui sont, pour le préciser, aux auditeurs, à des horaires plutôt de travail, c'est plutôt le matin, 13h à l'heure du repas, voilà, l'après-midi, mais enfin c'est rarement en soirée. Ouais. Et certaines projos, on se retrouve en effet que un ou deux dans la salle.
Oui, mais enfin on est devant un écran plus grand que soi. C'est parce que je vous un rayon lumineux. Dans le noir.
C'est pas ce que je dis. Je dis qu'une comédie, je pense surtout aux comédies.
Oui, pensez aux comédies.
Ouais, je pense surtout aux comédies. Oui, non, une comédie avec une salle qui éclate de rire en même temps, une communion.
Ça, c'est vrai.
C'est pas pareil.
Oui, bien sûr. Sur le rire,
tout seul
oui.
Aussi. Non, mais je suis sûr que vous marrez tout seul, vous gondolez devant un truc, vous n'avez pas besoin des autres.
Le matin devant le miroir, déjà. Oui,
par exemple, voilà. Et la nuit en dormant.
Alors que Casanova, enfin, je veux dire, Dernier Amour, quand il y a des scènes de. D'amour, on aime bien être seul au cinéma et pas gêné par le regard du voisin.
Ah bon?
Ah oui?
J'allais dire. Ah
enchaîne, Nagui, enchaîne vite. On enchaîne, ça va être gênant, ça va être hyper gênant.
Là, ça, c'est tout un.
Très personnel.
C'est secret, ça. Ouais. Ouais,
c'est votre jardin secret, Nagui.
Non, mais je pense qu'il peut y avoir des scènes gênantes au cinéma. Enfin, gênantes. Des scènes osées au cinéma et on peut être gêné.
Non, la gêne au cinéma, c'est quand c'est très mauvais, qu'on a honte pour soi et pour les autres qui sont avec soi.
Je pense que la première gêne la plus générale, c'est celle des larmes. C'est celle des larmes.
Oh ouais. Non,
ah non,
pas
les gens adorent. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est non, mais ça, ces émotions
si
basiques, rire ou pleurer.
Cache.
C'est
on, se cache, on peut se cacher au cinéma pour pleurer, oui, pour pas se faire avoir comme voisin.
C'est un moment intime quand même de pleurer. On n'a pas envie d'être.
Oui, mais justement,
mais
c'est une intimité partagée.
Je dis pas qu'il faut pas pleurer. Je dis que c'est un moment qu'on n'a pas forcément.
Non, mais c'est ça le
grand
du cinéma. Ah,
moi,
ça mobilise des choses très intimes à plusieurs.
Qui est en larmes et moi aussi, on échangerait quasiment nos mouchoirs. Donc, pas de problème.
C'est une soirée à thème.
Voici Daniel Morin.
Oh, je suis dégoûté, les amis, écœuré, j'ai la nausée. Le comportement des hommes provoque chez moi de plus en plus de haut-le-cœur. En Algérie, l'armée tente de se débarrasser de Bouteflika. Hier, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a évoqué l'article 102 de la Constitution, article qui permet de relever de ses fonctions le président en cas de maladie grave et durable entraînant l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Les salauds, les fumiers. En plus, c'est totalement faux. Le président Bouteflika est en pleine forme, d'après des témoins proches. Abdelaziz Bouteflika aurait cligné deux fois des yeux le mois dernier. Alors, c'est pas un signe de bonne santé, ça. On dit même qu'en octobre 2018, il s'est raclé la gorge pendant son sommeil. Signe de grande vitalité. Alors oui, bon. Ok, il n'est pas en méga, méga forme non plus, on va pas se mentir. Mais c'est pas non plus comme s'il était incapable de diriger le pays. Il a encore des réflexes. Tenez un exemple. Depuis un moment maintenant, il vit en permanence la bouche ouverte. Eh bien, il paraît que quand une mouche lui rentre dans la bouche, il a encore la force de l'avaler. Bon, il la digère pas. Et parfois, la bouche pond des œufs qui sortent par le nez. Mais tout ça, c'est du détail. Il a du réflexe et c'est ça qui compte. Laissons-le tranquille, le pauvre Abdelaziz. Il dérange personne. Laissons-le finir son mandat. Il n'y a plus que quelques mois à tenir. Au pire. Tu le ranges dans un placard avec assez de place pour le fauteuil roulant. Deux fois par jour, tu lui donnes sa soupe en transfusion. Tu changes sa poche et voilà. Pour avoir une ambiance jour, tu allumes la lumière. Ambiance nuit, tu éteins la lumière. C'est pas compliqué. Pour lui donner l'impression qu'il est dehors, un petit coup de ventilateur, il évoque du feu. Une fois le nouveau président élu, tu le sors une dernière fois du placard. Tu lui prends la mouche pour la manche, pardon, pas la mouche. Tu lui prends la manche pour l'aider à faire coucou. Et tu le ranges à nouveau. Pas dans le placard parce qu'en mai, il commence à faire très chaud en Algérie, mais tu le ranges dans une chambre froide. Respectons les élus, enfin. C'est quoi ce coup de force des militaires? Si ça continue, on va finir par croire que c'est eux qui dirigent le pays depuis toujours. Et là, non, faudrait pas exagérer. Bon, politique internationale toujours, là, les gars, c'est grave, les Américains sont au taquet. Ils veulent retourner sur la Lune. Pourquoi? Ils ont peur que les Chinois aillent s'installer avant eux. Mais qu'ils y aillent, les gars, qu'ils y aillent sur la Lune. Ou plutôt, qu'il y aille, oui, qu'on envoie Trump. On envoie Trump sur la Lune, comme ça, tout le monde sera content. Et je suis sûr qu'il accepterait. Penser qu'il serait le seul à avoir son bureau tout en haut, ça le ferait kiffer. Et nous, il nous emmerdera plus à 300 000 km de la Terre. Une fois par semaine, il fera un petit discours. que personne n'écouterait. Il pourrait construire tous les murs qu'il veut, ça gênerait personne. Pour l'inciter à construire, c'est pas compliqué. Il suffit de lui dire qu'on a vu traîner près de la base lunaire un extraterrestre en train de manger un tacos. Là, il devient dingue, il sort avec sa truelle et son sac de ciment et c'est parti, il te mure tout ça, ça traîne pas. Et puis si jamais il s'emmerde là-haut tout seul, on pourrait toujours lui envoyer de la compagnie. Une présence discrète mais rassurante, comme celle d'un homme qui aurait eu aussi de grandes responsabilités comme chef d'État, mais qui serait aujourd'hui en retrait. Envoyons-lui Bouteflika. En même temps, s'il est diminué, vivre avec Trump, ce serait hyper cruel de faire ça au président algérien. Je pense que là, il serait capable de remarcher, même capable de rentrer à pied sur terre. À demain.
Merci. Avec Nagui. L'avenir pour vous est de vous retrouver, Tony Marshall, Benoît Jacquot, à ce festival du film policier de Beaune, festival international. Ça sera donc la semaine prochaine, du 3 au 7 avril. Professionnellement, Tony Marshall, de quoi avez-vous envie? Sur quoi travaillez-vous? Êtes-vous en train de plancher ou de tourner?
Je planche un peu, oui, je travaille.
On est dans quel cycle là pour vos 3 ans? Vous dites tous les 3 ans, je fais un film.
Oui, donc voilà, c'est à peu près le temps que ça me prend.
D'accord.
Je travaille sur 2 projets différents. Une fiction qui est dans la catégorie des séries B, Rape and Revenge, c'est-à-dire viol et vengeance en français.
Quand vous dites série, ça veut dire pour la télévision?
Non, une série B, c'est ce qu'on appelle une série B, c'est-à-dire c'est codé, voilà.
Quand vous dites fiction, je me suis dit...
Voilà, et donc ce serait trois actrices qui sont Rossy Di Palma, Béatrice Dalle et Judith Godrèche, qui se seraient fait violer au Baléares vers la fin des années 80, et qui aperçoivent à la télé un des violeurs qu'elles reconnaissent 30 ans après, et elles vont se venger. Mais j'essaye de faire une vengeance qui soit pas à l'image des vengeances masculines, mais une vengeance féminine, ce qui n'est pas exempt de violence, mais ce qui est un peu différent.
Croustillant. D'accord, voilà. Très bien. À propos d'ailleurs, là vous avez parlé de l'affaire Weinstein, Benoît Jacquot, et de...
Oh oui. Non, je suis pas le seul.
Non, vous n'êtes pas le seul. Vous avez dit que l'idée de faire votre film Dernier Amour était présente bien avant l'affaire Weinstein.
Oui, ça, on dit toujours ça pour s'en tirer, mais c'est vrai, ouais. Ouais.
En tout cas, c'est... bref. Et alors, vos projets, vos envies, est-ce que vous êtes sur l'envie d'un film à costume, à nouveau,
non,
historique,
là, pour les prochains, je préférerais éviter, faire un film contemporain, mais je ne sais pas encore lequel, et en tout cas, de toute
ni
façon...
Ni le genre?
Non, je ne sais pas, mais je ne suis pas très accroché, malgré ma prochaine fonction, je ne suis pas très accroché aux films de genre. J'y crois. Bah bon, le genre des genres, c'est le western. On en voit des westerns encore?
Bah, oui, il y a pas très longtemps, Frère Sisters.
Alors, Frère Sisters, mais bon, oui.
Il était très bien,
Voilà, mais enfin, c'est une exception qui confirme cette règle qu'on n'en voit plus.
Donc, ça sera un Benoît Jacquot comme genre?
Voilà, peut-être.
Pas mal comme
après
genre.
Tout.
Pas mal. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Non, absolument. Désolé déjà pour Nicolas Demorand, Laure Adler, Augustin Trapenard, bref, tous les polytoxicos de la station France Inter qui se sont rués dans le studio pour voir Tony Marshall parler de son allergie à l'alcool. Doucement, les gars, elle a l'air de bien le vivre, hein, par des mauvais souvenirs. Désolé pour Thomas Legrand, Antoine Decaune, Mishka Assayas et tous les psychopathes de France Inter qui se sont infiltrés jusqu'au studio pour discuter assassinat et mort violente avec Tony Marshall. Doucement, les lascars, hein, il n'a pas encore tué quelqu'un ce matin. Il lui reste une quarantaine de secondes. Désolé pour Ali Abbey, Bruno Duvic, Mathieu Vidard et tous les menteurs professionnels de cette station qui ont volé jusqu'au studio pour rencontrer leur mentor, Benoît Jacquot. Eh oh, doucement les tocards en plus, il a dit la vérité aujourd'hui puisqu'il a reconnu ne pas comprendre les questions de Nagui.
Salope. Demain, bah tiens, puisqu'on parle de policiers aujourd'hui, demain c'est Michel Bussy qui sera notre invité et qui en plus avait une fiction hier qui passait sur M6 portée par Bruno Solo et qui a été un formidable succès avec plus de 3,5 millions, je crois, de spectateurs. Donc demain, Michel Bussy. Merci beaucoup, Tony Marshall.
Merci
Benoît Jacquot d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro. Et bon festival du film à Beaune du 3 au 7 avril prochain. Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut, bonjour monsieur.
Bonjour. Vous tenez le coup sans plastique? Parce que ce matin, je me suis posé la question en enfilant mon...
J'ai eu peur.
Quatre sons, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas du polyester dedans?
Oh, il y en a encore un peu partout.
Oui, ah oui, c'est ça.
Ne serait-ce que les cadres des ordinateurs avec lesquels nous travaillons.
Voilà, exactement. Bah, les stylos, tu en les jettes.
On va mettre du temps, mais on est sur une piste.
Salut les amis, à demain.
Bonne émission. Ciao.